L'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, le prix Nobel de la paix 2020 a donc été attribué ce matin au programme alimentaire mondial des Nations Unies pour ses efforts destinés à combattre la faim dans le monde, notamment dans les zones de conflit. Une récompense qui ne saurait faire oublier par ailleurs que la pandémie due au nouveau coronavirus a fortement augmenté le nombre de victimes de famine à travers le monde.
Après avoir recouvré hier soir la liberté au Mali, Sophie Petronin est attendue d'ici quelques minutes en France.
Oui, la désormais ex-dernière otage française dans le monde doit être accueillie par le président lui-même, Emmanuel Macron.
L'actualité en France, toujours après Aix, Marseille et Paris. Quatre autres villes, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille, basculeront demain en zone d'alerte maximale.
Un basculement synonyme, bien sûr, de nouvelles restrictions sanitaires pour freiner l'épidémie de Covid-19. L'agence sanitaire a dressé ce matin la liste des restrictions d'utilisation du glyphosate dans l'agriculture. Restrictions qui entreront en vigueur dans les 6 prochains mois, en attendant la fin totale de l'herbicide controversé promise pour 2023.
Et enfin, quel sera l'invité de la rédaction?
Dans une vingtaine de minutes, nous recevrons Aurélie Viel, responsable de la programmation du prix Bayeux des correspondants de guerre. Parce que la guerre, par définition, est ennemie déclarée du Nobel de la paix, peut-être tout à la fois la cause comme la conséquence de la faim dans le monde. La prestigieuse récompense a donc été attribuée ce matin au PAM, le Programme Alimentaire Mondial, comprenait l'Organisation des Nations Unies qui du Yémen à la Corée du Nord et notamment dans toutes les zones de conflit nourrit des dizaines de millions de bouches à travers le monde. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors certains diront sans doute que les Nations Unies sont une habituée des Nobels. C'est en effet la 12e fois que le comité choisi d'attribuer sa récompense à une institution ou une personnalité rattachée à l'ONU. Quoi qu'il en soit, Marie-Pierre, ce n'est certainement pas un hasard si le Nobel de la paix 2020 vient aussi en quelque sorte récompenser le multilatéralisme.
Eh oui, le multilatéralisme récompensé à l'heure où Trump ne ménage pas l'ONU et où ce multilatéralisme se voit attaqué. Le Nobel le souligne d'ailleurs lors de la remise du prix. C'est aussi un choix consensuel, le PAM. Hein. Le Programme Alimentaire Mondial, c'est un peu la mère nourricière de dizaines de millions de personnes, beaucoup de femmes et d'enfants. Il est intervenu l'an dernier dans quelques 80 pays, en Syrie, au Mali, au Yémen. Le Nobel dit notamment récompenser ses efforts pour empêcher que la faim ne soit utilisée comme arme de guerre. Et son aide, qui peut sembler considérable, ne représente pourtant qu'une fraction des besoins, comme le rappelle la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.
En 2019, 135 millions de personnes ont souffert d'une faim aiguë. C'est le chiffre le plus élevé depuis de nombreuses années. La plus grande partie de cette augmentation s'explique par la guerre et par les conflits armés, mais aussi par la pandémie de coronavirus. Dans des pays comme le Yémen, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Burkina Faso, la combinaison de conflits et de la pandémie a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de personnes au bord de la famine. Et comme le Programme Alimentaire Mondial l'a dit lui-même, tant que nous n'avons pas de vaccin, le meilleur vaccin contre le chaos, c'est la nourriture.
Oui, car le PAM redoutait de faire les frais de l'attention portée par les États au secteur de la santé en cette période de Covid et avait tiré la sonnette d'alarme. La famine menace. La pandémie vient aggraver la situation des personnes les plus vulnérables. Les fermetures de frontières, par exemple, qui ont empêché la livraison de semences dans plusieurs pays africains et la prochaine saison de récolte s'annonce beaucoup moins riche. Ce prix va donc peut-être réveiller les consciences. Le PAM, vous savez, avait un budget record de quelque 8 milliards de dollars pour 2020, mais ce n'était pas assez, ont plaidé ces artisans. Le Nobel les aidera sans doute à rendre leur message plus audible.
Merci Marie-Pierre Véraud. La nervosité suscitée par l'annonce en début de semaine de la libération de la dernière otage française dans le monde avait fini par céder la place à une interminable attente en l'absence de signes d'avancée, mais aussi face à des informations contradictoires. Et puis hier soir, épilogue de ces quasi 4 années de détention aux mains de djihadistes présumés, Sophie Petronin a donc fini par recouvrer la liberté au Mali. Elle est à présent attendue d'une minute à l'autre sur la base aérienne de Villacoublay où elle sera accueillie par le président Emmanuel Macron. Dès hier soir, à l'aéroport de Bamako, cette fois-ci, d'émouvantes retrouvailles ont déjà eu lieu entre la septuagénaire et son fils, Sébastien Chado, qui depuis le début de la captivité de sa mère n'aura jamais cessé de se battre pour que son sort ne soit pas oublié. Alors dans la dernière vidéo sur laquelle elle était apparue, Sophie Petronin paraissait très fatiguée et hier, Dans un entretien avec nos confrères de Radio France Internationale, elle a dit n'éprouver aucune colère avant d'esquisser une vision dédramatisée de ce qu'avait été sa captivité.
J'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. Comme ça, ça se passe mieux. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et j'ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sortie.
Votre fils s'est battu pour vous?
Oui, mon fils est un battant, mais dans la famille, nous sommes tous des battants. C'est peut-être ce qui était le plus difficile à gérer pour moi, c'était de savoir que je l'avais mis dans un problème qui allait sacrément le secouer. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait.
Dernière question, un mot sur vos geôliers.
Sur mes geôliers?
Les ravisseurs?
Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Djihad, c'est guerre.
Mais ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans des prisonniers avant de vous libérer.
De leurs militaires, oui. Si vous avez un groupe d'armée de guerre et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer, ce qui est logique. Et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armée au régime. Ils trouveront le chemin pour la paix, je leur souhaite en tout cas vivement.
Voilà, Sophie Pétronin, désormais ex-otage au Mali. Alors, il faut préciser que la Française a été libérée hier avec trois autres otages, deux Italiens dont un prêtre, ainsi que Soumaïla Cissé, ex-ministre malien des Finances, devenu une figure populaire de l'opposition et qui avait été enlevé le 25 mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives. L'exigence de sa libération avait d'ailleurs constitué l'un des cris de ralliement de la contestation contre le président Keïta, finalement renversé par un putsch cet été. Toujours est-il que cet homme élégant qui passe volontiers pour un intellectuel débonnaire mais plus professoral que charismatique a derrière lui un parcours brillant qui l'a conduit à de hautes responsabilités et en ce sens, eh bien, Soumaïla Cissé représente aujourd'hui une figure éminente de la politique et de l'histoire tourmentée de son pays. Je vous propose d'écouter Michel Galli, politologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne, joué en téléphone par Nadine Epstein.
Alors, Soulayman Cissé, c'est en quelque sorte le Ouattara du Mali. Il est de tendance plutôt néolibérale. Ça a été le grand opposant de Ibrahim Bakar Keïta. Et il a des bases régionales dans le nord, là où il a été enlevé d'ailleurs. Et il y a une recomposition totale du paysage politique en son absence, puisqu'il y a eu un coup d'état militaire, ensuite une sorte de civilisation de cette junte, hein, puisqu'il y a un président qui est certes un ancien militaire, mais qu'on peut considérer comme un civil. Donc en son absence, et peut-être en partie à cause de son absence, le paysage politique malien a été remodelé, et donc il doit redéfinir sa place.
C'est-à-dire qu'il peut reprendre une place de premier plan?
De premier plan, je dirais pas dans l'immédiat. D'abord, six mois de captivité, ça doit être plutôt éprouvant. Et ensuite, il faut que voir si ses partisans se sont pas dispersés dans différents mouvements, comme le M5, qui a mené l'opposition à l'ancien président Ibrahim Bakar Keïta, et si ensuite il peut solliciter des postes dans le nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place.
Voilà, Michel Galli, politologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Il répondait à Nadine Epstein. Alors, on l'a dit, l'annonce par la présidence du Mali de la libération des otages a mis fin à plusieurs journées sous haute tension. Et voilà qu'elle soulève à présent une multitude de questions sur sa genèse, son déroulement, comme ses retombées. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, notons que cette libération aura donc été rendue possible grâce à la libération le week-end dernier de quelques 200 prisonniers djihadistes. Sait-on, Nathalie, de qui il s'agit?
Il y a sans doute une majorité de petites mains. Bon nombre d'entre eux n'avaient d'ailleurs pas été jugés. Mais il y a aussi plusieurs cadres de cellules armées. Selon nos confrères du journal Le Monde, trois Mauritaniens auraient été relâchés, dont l'un des lieutenants de Mokhtar Belmokhtar. Il était impliqué dans des attentats au Mali contre un restaurant de Bamako et un hôtel de Sévaré en 2015. Au total, 28 personnes avaient perdu la vie. Ou encore Mimi Ould Baba, considéré comme le logisticien des attaques de Ouagadougou au Burkina Faso et de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire en 2016, des attaques dans lesquelles 49 personnes ont été tuées.
Alors on imagine que le choix des nouvelles autorités maliennes, en l'occurrence les nouveaux maîtres militaires de Bamako, d'ouvrir des négociations directes avec les terroristes va probablement marquer un tournant dans la gestion de la crise au Mali. Est-ce que cela pose la question, l'occurrence de l'avenir de l'opération Barkhane et de l'engagement militaire français dans le pays?
Les plus pragmatiques vous diront qu'ils estiment que ça ne va rien changer. Les soldats de Barkhane vont remplir leur mission sans atermoiement. À l'état-major et aux politiques, la charge de nouvelles réflexions stratégiques. D'autres officiers se disent plus perplexes, voire inquiets. Quelle perception vont avoir les militaires maintenant, alors que les responsables directs ou indirects de la mort de 45 de leurs camarades au Sahel sont dans la nature? Et que vont penser les familles de ces soldats tués et les proches des victimes d'attentats? C'est un coup dur. Toutefois, tous s'accordent à dire que la feuille de route posée par le président de la République reste pour l'heure inchangée, ce qui n'empêchera pas à un moment donné de se poser la question du sens de la présence française, selon un haut gradé, surtout dans ce nouveau contexte politique malien.
Merci Nathalie Hernandez.
12h40 sur France Culture, un vent d'inquiétude souffle sur la France quant à la capacité de son système hospitalier à absorber la vague hivernale du Covid-19.
Oui, la circulation toujours active du virus fait d'ailleurs qu'on ne craint plus une seconde vague, mais cette fois-ci une marée de malades. Hier encore, un nombre quasi record de plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Et pour freiner cette épidémie, les autorités ont donc décidé de faire basculer dès demain 4 nouvelles villes en zone d'alerte maximale. Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille. Sarah Ders, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle carte de France donc, synonyme de nouvelles restrictions sanitaires.
Les bars et les cafés seront fermés. Les restaurants ne pourront rester ouverts qu'en respectant un protocole sanitaire strict, comme les musées et les cinémas. Les rassemblements de plus de 10 personnes, eux, sont toujours proscrits et le télétravail privilégié. Aucun changement, en revanche, pour les salles de sport, clubs de gym, piscines, actuellement fermées dans ces 4 villes, qui basculent en zone d'alerte maximale et rejoignent l'Île-de-France où la situation est très préoccupante, Marseille et la Guadeloupe. Deux autres villes, Toulouse et Montpellier, obtiennent quelques jours de répit. Les agglomérations de Dijon et Clermont-Ferrand passeront en zone d'alerte renforcée. En France, 199 classes et 24 établissements scolaires fermés, selon le ministère de l'Éducation nationale, des chiffres en hausse par rapport à la semaine dernière. Pour l'instant, Olivier Véran n'a pas annoncé de restrictions de déplacement pour les vacances de la Toussaint. Des restrictions plus ou moins contraignantes, réévaluées en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les différentes régions. C'est cette stratégie-là que le gouvernement doit avoir, insiste le président du conseil scientifique, en plus du port du masque et des mesures de distanciation sociale, pour soulager, dit-il, les hôpitaux et éviter un reconfinement local.
Merci Sarah Ders. Plus généralement, l'inquiétude est toujours vive en Europe dans son ensemble qui en tant que région signale désormais plus de cas que l'Inde, le Brésil ou les États-Unis. L'Allemagne redoute même que cette propagation ne devienne incontrôlée en Espagne après que la justice a rejeté hier le bouclage partiel de la capitale, pourtant l'une des plus touchées du continent. Le gouvernement envisagerait à présent d'y décréter l'état d'urgence. Enfin, les Pays-Bas, la Pologne, l'Ukraine et la République tchèque ont tous enregistré une augmentation record du nombre de cas quotidiens signalés hier. C'est un rapport qu'on imagine potentiellement explosif au moment même où l'épidémie de Covid-19 justement fait plonger un nombre toujours plus important de ménages modestes dans la pauvreté. Selon l'organisme public France Stratégie, 2/3 des dividendes distribués en France en 2018 l'ont été à 0,1% des foyers fiscaux. Et 1/3 à 0,01% d'entre eux. Alors faut-il en déduire que les réformes de la fiscalité du capital mises en œuvre après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron sont loin, très loin d'avoir atteint leur but affiché, stimuler l'activité? Pour l'heure, difficile d'apprécier l'impact de ces mesures sur l'investissement des contribuables les plus aisés dans l'économie. Seule certitude donc, ces réformes ont entraîné une forte hausse des dividendes concentrés sur un plus petit nombre de foyers fiscaux très fortuné. Et pendant ce temps, en pleine crise, et alors que le regard a tendance à se durcir sur les chômeurs, voilà que l'UNEDIC publie ce matin une étude sur le profil et le parcours des demandeurs d'emploi. Ou quand l'on apprend notamment Catherine Pétillon, et contrairement aux idées reçues sur les fameux assistés, que la très grande majorité d'entre eux, plus de 60%, ne perçoivent pas d'allocation chômage.
Oui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé pour ouvrir un droit ou le recharger ou ne répondent pas aux critères de l'assurance chômage. C'est le cas d'une partie de la fonction publique, des démissionnaires et des indépendants. On est donc loin de l'image du chômeur profiteur, représentation pourtant encore largement répandue. Il y a quelques semaines, l'UNEDIC publiait son baromètre de la perception du chômage. Il montrait que 38% des Français considèrent que les demandeurs d'emploi sont, je cite, des assistés. 36% estiment qu'ils touchent des allocations trop élevées. L'étude publiée aujourd'hui permet justement d'en savoir plus sur le profil des 2,6 millions de personnes qui, en juin 2019, ont été indemnisées par l'assurance chômage. Plus de la moitié, 55%, sont indemnisées à la suite d'une rupture de contrat, c'est-à-dire licenciement, fin de contrat d'un commun accord ou démission, même si ces dernières ne représentent que 3% des allocataires, tant les conditions d'accès à l'assurance chômage en cas de démission sont restrictives. Toutes les autres personnes indemnisées le sont à la suite d'un contrat, CDD ou intérim qui arrive à terme. Ce chiffre est stable depuis 2014. Il explique aussi la part importante des jeunes parmi les allocataires, plus de 30%. Cette étude permet aussi d'identifier les trois principaux secteurs dans lesquels les allocataires cherchent du travail. Ce sont les services à la personne, le commerce et la vente et le support à l'entreprise, autrement dit le secrétariat, les ressources humaines ou la comptabilité par exemple. Enfin, 32% des personnes indemnisées ont travaillé dans le mois. C'est ce qu'on appelle l'activité réduite. Le chômeur indemnisé est souvent en fait quelqu'un qui travaille.
Labourant le stratégique sillon sécuritaire, Jean Castex poursuit sa ronde, Thomas.
Oui, après des descentes à Dijon et Nice, théâtre de troubles pendant l'été, le Premier ministre se rend aujourd'hui à Toulouse où il devrait, là encore, apporter renforts humains et matériels. L'occasion pour le chef du gouvernement de promouvoir sa marque de fabrique basée sur l'action de proximité, la concertation avec les élus, mais aussi donc d'investir le terrain sécuritaire après avoir déjà multiplié les avertissements face à, je cite, la banalisation de la violence. Un discours de fermeté dans un contexte qui plus est ravivé par l'agression par balle mercredi soir de deux policiers dans le Val d'Oise. L'un d'eux blessé à l'abdomen se trouve toujours ce matin entre la vie et la mort, selon le parquet de Pontoise. Enfin, on vient de l'apprendre, l'un des trois suspects de cette agression s'est rendu de lui-même à la police ce matin. Si le vote cette semaine par les députés de la réautorisation temporaire des néonicotinoïdes aura non seulement révélé un profond clivage sur les questions environnementales, mais aussi brouillé un peu plus encore le message des autorités sur la transition écologique, nul doute que l'évaluation rendue publique ce matin sur le glyphosate, autre pesticide controversé, risque là encore d'alimenter la controverse. 3 ans après la promesse non tenue d'Emmanuel Macron d'interdire l'herbicide, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a dressé la liste des cultures pour lesquelles il ne sera plus possible d'utiliser le glyphosate, la viticulture, l'arboriculture et les cultures céréalières. Véronique Rebérod, bonjour.
Bonjour.
Reste désormais à voir comment ces nouvelles règles donc seront appliquées, alors même que les produits seront toujours autorisés. Sans compter que pour éviter le cafouillage sur les néonicotinoïdes, en clair interdire une substance pour finalement revenir sur cette interdiction, eh bien une longue liste d'exceptions a d'ores et déjà été établie, avec tout ce que cela suppose, Véronique, de difficultés en termes d'interprétation et de contrôle sur le terrain.
Ouais, c'est plutôt que les cas où les alternatives non chimiques pour remplacer le glyphosate sont finalement assez limitées. D'après les critères de l'ANSES. L'ANSES fixe 3 critères. Il faut que l'alternative au glyphosate soit disponible sur le marché, qu'il soit d'usage courant et qu'elle n'ait pas d'inconvénient, cette alternative, d'inconvénient pratique ou financier majeur pour l'agriculteur. Or, par exemple, désherber à la main en lieu et place du glyphosate constitue un coût fatalement financier pour l'agriculteur. Par ailleurs, que l'ANSES considère qu'en viticulture comme en arboriculture, d'ailleurs, le désherbage mécanique entre les rangs sera une alternative non chimique à mettre en place. Certaines associations comme Génération Future font remarquer que l'interrang, donc entre les arbres fruitiers, est déjà laissé en herbe sur 95% des surfaces des vergers français. On va donc agir à la marge. Il y a dans ce rapport des progrès en trompe-l'œil, estiment donc les associations environnementales, pour qui ce rapport de l'ANSES fige en fait un certain nombre et même un nombre important d'usages de glyphosate. Marie-Christine de Guénin de l'ANSES promet un changement de pratique d'ici 6 mois induit par les autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate. On l'écoute.
Cela veut dire que les décisions que l'ANSES prend sur les produits à base de glyphosate pour autoriser leur mise sur le marché vont être modifiées et introduire ces restrictions. Alors, ça veut concrètement, dans un délai de 6 mois, Les opérateurs devront mettre à jour les étiquettes des bidons de produits pour que les agriculteurs puissent accéder facilement aux informations sur ces nouvelles conditions d'emploi.
Voilà, on peut noter ce matin l'absence pour l'instant de réaction des syndicats agricoles à la publication de ce rapport de l'ANSES. Rappelons que le glyphosate est toujours normalement interdit. Il y a une date 2023.
Merci Véronique Romerotte. Les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais ont été conviés aujourd'hui à Moscou pour régler le conflit du Haut-Karabakh. Hier encore, dans cette région montagneuse du Caucase, les combats se sont poursuivis toute la journée. Pour l'heure, le bilan officiel fait état de 300 à 400 morts, dont une cinquantaine de civils. Un bilan extrêmement partiel et qui pourrait surtout être beaucoup plus élevé. Chacun des deux camps affirmant avoir éliminé des milliers de soldats ennemis. Au Kirghizistan, ex-république soviétique la plus pluraliste mais aussi la plus instable d'Asie centrale, le président s'est dit prêt ce matin a démissionné pour tenter de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays depuis près d'une semaine après des élections législatives controversées. L'invité de la rédaction à présent aujourd'hui, Aurélie Vielle, responsable de la programmation du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre en direct du festival. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors cette 27e édition se tient encore jusqu'à dimanche en présence de quelques 200 grands reporters, mais nécessairement dans un format un peu restreint, Covid oblige. À ce titre, première question, comment les correspondants de guerre ont-ils photographié justement le Covid? Puisqu'on parle d'une guerre contre le virus, est-ce que ce combat s'est aussi retrouvé dans leurs images?
Alors, assez étrangement, en fait, c'est vrai que notamment les photographes qui ont de guerre ont couvert le Covid. C'est-à-dire que c'est plus les correspondants de guerre qu'on a envoyés sur des, notamment en Italie, ou aussi couvrir les trains de sanitaires. Donc ils étaient quand même au cœur de cette couverture, et en même temps, comme ils ne pouvaient pas aller couvrir une autre actualité un peu plus loin, ils ont été très présents sur cette couverture du Covid.
Et on notera notamment que regard des jeunes de 15 ans, donc du prix Bayeux, les élèves de 3e ont voté pour une photo à ce sujet représentant une femme enlaçant sa mère âgée à travers un film plastique. Ce matin a été décerné, je l'évoquais, le prix Nobel de la paix. Il se trouve qu'une des grandes expositions de cette édition propose une réflexion à travers des photos prises pendant et après les combats, grâce au regard donc de reporters qui sont retournés dans les pays qu'ils avaient déjà couverts pour tenter de montrer la paix. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces instantanés d'un monde pacifié?
Alors oui, cette exposition Imagine réflexion sur la paix qui a été imaginée par la fondation Seven et notamment Gary Knight qui était l'ancien président du jury l'année dernière. C'est vraiment très passionnant de voir notamment plusieurs zones, le Rwanda, le Cambodge, la Colombie, la Bosnie. Donc les reporters qui ont couvert ces zones sont revenus en fait donc quelques 20 ans après retrouver des gens qu'ils avaient photographiés. Et donc on a vraiment cette problématique de la couverture de ce conflit, où en est la situation de ces pays aujourd'hui. Il y a des très jolies histoires notamment sur le Rwanda où on voit une femme qui a été mutilée pardonnée à la personne qui lui a fait subir tout ça. Donc à travers cette exposition et aussi un livre qui est sorti cette semaine, une vraie réflexion sur la situation, sur comment on peut faire évoluer aussi toutes ces situations. Et je dois dire, par rapport au prix Nobel de la paix, je suis très heureuse que le Programme alimentaire mondial ait gagné ce prix Nobel. Ça va permettre d'aller un peu plus loin pour montrer le travail des humanitaires sur le terrain, puisqu'ils sont quand même très en lien avec les journalistes, ils partent ensemble la plupart du temps. Et le Programme alimentaire mondial, il traite aussi de la famine, qui est une des causes ou conséquences des conflits. Donc j'espère que ça va faciliter le travail des humanitaires sur le terrain. On espère aussi une prise de conscience. Et comme après la guerre, il y a toujours la reconstruction, Le prix Nobel, c'est aussi des fonds, donc on espère que ces fonds vont aider à la reconstruction.
Décidément, l'actualité résonne particulièrement avec votre festival. Ce matin, hier soir, Sophie Petronin a été libérée. Elle vient d'ailleurs d'atterrir à Paris. Il se trouve que votre traditionnelle soirée Grand Reporter est consacrée ce soir au Sahel. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui cette zone de conflit au vu des récits que vous avez recueillis?
Oui, c'est important d'aborder la situation au Sahel. On a la chance d'avoir ce soir des grands reporters qui ont couvert ces pays, des spécialistes, d'avoir un regard pour essayer de décrypter. Là, ce soir, en fait, on va essayer de prendre le temps, au-delà du breaking news, des enlèvements d'humanitaires, au-delà des chefs djihadistes tués, des opérations militaires, on va vraiment raconter ce qui se joue sur le terrain. Et donc, on va bien sûr aborder la libération de Sophie Petronin, qui pose à travers cette libération le problème des humanitaires sur le terrain, puisqu'avec la présence des mouvements djihadistes qui essayent de saper le travail des humanitaires sur le terrain, les humanitaires sont tués, enlevés. Donc ça, c'est une question qui sera abordée ce soir, dans une soirée qui va éclairer toutes ces problématiques sur le Sahel.
Merci Aurélie Vielle, responsable, je le rappelle, de la programmation du prix Bayeux des correspondants de guerre, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que le festival donc se tient encore jusqu'à dimanche. On termine avec un mot de météo pour cet après-midi. Une large moitié nord du pays sous la pluie. Plus au sud, le temps sera au sec. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et le prochain journal aura lieu à 18h.